Les conférences du Collège de France.
Mesdames, messieurs, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc réunis pour la dernière des quatre conférences que l'écrivain, essayiste, helléniste, professeur à Bard College, Daniel Mendelssohn, a eu l'amabilité de donner ici au Collège de France. Nous avons été, je crois, très heureux, très passionnés de nous retrouver pendant tout ce mois de mars, qui est un mois à la fois de printemps et de bonheur intellectuel, grâce à Daniel Mendelssohn, d'avoir ici pour nous parler d'Athènes et de Jérusalem, de la Shoah, qui étaient les sujets de ces quatre conférences. À l'issue de la quatrième conférence qui nous réunit aujourd'hui, je décernerai à Daniel Mendelssohn la médaille du Collège de France. Il craignait il veut savoir si je le juge digne encore après cette ultime conférence de recevoir la médaille. Nous verrons bien, hein, il y a encore un petit peu de suspense, mais je crois que vous pouvez accueillir Daniel Mendelssohn pour cette dernière conférence qui s'intitule donc Antigone à Cracovie.
Une douce soirée de printemps 2009. Mon père, atteint de son cancer, m'interrogeait sur le livre que j'avais commencé à écrire, un ouvrage sur la littérature classique et les raisons pour lesquelles il fallait le lire. Pendant longtemps, j'avais peiné à trouver la forme adéquate pour ce livre, et ce soir-là, je confiais mes difficultés à mon père. Il était allongé sur le canapé sur lequel il se déplaçait plus facilement que dans son lit. Le fauteuil roulant était rangé dans un coin. Le déambulateur était à portée de main, même s'il n'aimait pas s'en servir, car cela lui rappelait qu'il en avait besoin. Eh bien, dit-il de sa voix rauque, tu trouveras bien une solution. Tu connais le sujet, tu as étudié, tu as travaillé dur, tu as réussi. Un moment de silence, puis, you did good. Tu t'es bien débrouillé. You did good. Les trois mots d'éloge qu'il prononçait si rarement, cette utilisation incorrecte de l'adjectif « good » à la place de l'adverbe « well », une phrase qui semblait résonner d'un lointain passé familial d'une époque où mes grands-parents, fraîchement immigrés, maîtrisaient à peine l'anglais. « You did good ». Tandis que mon père me disait cela, tentant, avec sa rudesse habituelle, de m'encourager à écrire ce livre sur l'importance actuelle de la littérature grecque, je me demandais quel ancêtre, disparu depuis des décennies, avait prononcé ces trois mots le premier, sa langue s'enfonçant maladroitement dans les étranges voyelles anglaises, les consonnes dures comme des cailloux. Était-ce mon grand-père paternel? Un homme refermé comme une palourde, arrivé aux États-Unis bébé et qui, à 12 ans, travaillait 16 heures par jour parce que, comme on disait, il était assez vieux pour travailler. Tandis que ses frères et sœurs cadets, trop nombreux pour que leur père pût les élever, avaient dû être placés dans un orphelinat. Était-ce donc lui? Mon grand-père avait-il jamais prononcé ces mots? Où était-ce son père, mon arrière-grand-père, le cordonnier qui avait emmené sa famille en Amérique depuis Riga pour ensuite voir mourir sa femme et 9 de ses 10 enfants, tous à l'exception de mon grand-père, tous l'un après l'autre, elle en couche, eux, de la tuberculose ou de la grippe espagnole dans les années qui suivirent leur arrivée en Amérique. Il m'était difficile de croire qu'à aucun moment de leur vie brisée, ils n'avaient eu l'occasion de prononcer ces mots à son fils, mon grand-père, ces quatre mots d'approbation suprême, mots que, à ma grande surprise, je désirais encore entendre de la bouche de mon propre père, le fils et petit-fils de ces hommes infortunés, hommes qui n'avaient reçu aucune formation, aucune éducation. « Tu as bien travaillé, » poursuivit mon père, affichant sa grimace habituelle en essayant de se retourner dans le canapé. « Tu as étudié ce que tu as étudié, même si tout le monde disait que c'était complètement inutile. « Eh bien, » dis-je rapidement, un peu gêné, « toi et maman ne nous avez jamais forcés à être utiles. » Et c'était vrai. J'ai grandi dans une banlieue new-yorkaise peuplée d'Américains de première génération ambitieux où, si l'on réussissait bien à l'école, on pouvait aspirer à une carrière de dentiste ou, si l'on avait un penchant particulier pour la littérature, à une carrière juridique. Mais mes parents m'avaient toujours encouragé dans mes étranges passions, comme la maquette du Parthénon de près de 2 mètres de long, en perpétuelle construction au sous-sol de notre maison sur un établi que l'on appelait, chez mes parents, la table d'Athéna. Ou encore les visites secrètes, du moins je le croyais, au séminaire jésuite voisin de Montlysée, où j'assistais aux cours de grec. Mon père était mathématicien et, comme beaucoup d'élèves brillants doués pour les chiffres, il avait aussi excellé en latin. Les démonstrations mathématiques et les paradigmes des formes verbales, tout cela avait un sens pour lui, tous ces systèmes. Et depuis mon enfance, mon père se plaisait à dire que c'était de lui que je tenais mon goût pour les classiques, pour les grammaires et les déclinaisons. Quoi qu'il en soit, lui et ma mère n'avaient fait aucune objection lorsque, durant ma première semaine à l'université, j'avais décidé de me spécialiser en grec et en latin. Pour nous distraire tous deux d'une tendresse un peu gênante, en cette douce nuit de mai 2009, j'ai dit à mon père, « Tu te souviens de ce que grand-père et tante Ray ont dit quand je leur ai annoncé que je me spécialisais en grec ?» Il leva brusquement les yeux. 30 ans après la mort de son beau-père, homme difficile et vaniteux, il était encore ravi d'entendre une anecdote peu flatteuse à son sujet. Comprenant cela, j'offris à mon père un savoureux petit cadeau en lui racontant l'histoire suivante, que j'ai également partagée avec d'autres. Une histoire qui, donc, avec le temps, devint le point de départ de mon livre sur la littérature grecque. Une histoire qui explique pourquoi, ou pourquoi pas, on peut avoir envie de lire les classiques. Un jour de printemps, il y a presque 50 ans maintenant, vers la fin de ma première année d'université, j'ai pris le téléphone et appelé mon grand-père à Miami Beach, en Floride, pour lui annoncer que j'avais décidé de me spécialiser en grec ancien et en latin. La nouvelle ne fut pas bien accueillie. « Des classiques ?» répéta mon grand-père, perplexe. C'était un homme dont la scolarité s'était arrêtée le jour du début de la Première Guerre mondiale, alors qu'il avait 12 ans. À 19 ans, juste comme moi en ce jour de mai, il avait déjà vécu une guerre mondiale, perdu son père, traversé un océan, troqué l'Europe contre l'Amérique, une civilisation contre une autre. « Des classiques ?» répéta-t-il avec prudence. Des livres, de la musique, classique quoi? Non, grand-père, dis-je en me raclant la gorge, les doigts moites sur le combiné vert avocat. La littérature classique, les classiques, tu sais, le grec et le latin. Un silence confus suivit, et cherchant désespérément un nom qu'il pourrait connaître, mon grand-père, contrairement à mon père, était un homme de commerce, un séducteur, un voyageur, mais pas un grand lecteur. Je lui tendis une perche, un peu désemparée. Platon ! Un bruit de voix hésitant se fit entendre, et lorsque la conversation reprit, ce n'était plus mon grand-père, mais sa femme qui parlait, sa quatrième et dernière épouse, une femme née et élevée comme ce que nous, juifs, appelons une litvak, un mot dont les nuances, imprégnées d'un monde aussi perdu à sa manière que celui de Sappho et de Sophocle, sont mal rendues par l'adjectif neutre lituanienne. Cette vieille femme, plutôt imposante, s'exclama alors avec vigueur, incrédulité au téléphone en apprenant que j'allais me spécialiser en grec et en latin. « Du grec, du latin ?» cracha-t-elle. « À quoi bon étudier les grecs et les latins ? Ils sont morts, les grecs, les romains, tout morts, depuis 1000 ans. Je suis allé en Grèce, à Athènes, et je peux te le dire, ils sont morts. Platon, à quoi bon ? Je suis allé sur la tombe de Platon, et je peux te le dire, lui aussi est mort depuis 1000 ans. Crois-moi, trouve autre chose à étudier. Deviens médecin, avocat, au moins tu gagnerais ta vie. Tu seras plus heureux. » Elle prit une profonde inspiration et termina d'un ton là, par une phrase qui, je le comprends maintenant, était autant un jugement sur son propre monde disparu que sur celui que je comptais étudier. « Platon, les Grecs, » murmura-t-elle, « qu'importe, dans 1000 ans, tout aura disparu. » La tombe de Platon, et je souris après avoir raconté l'histoire à mon père ce soir-là, la nuit qu'il avait passée sur le canapé, incapable de se lever. La tombe de Platon, c'était devenu une sorte de plaisanterie entre nous quelques années plus tard, lorsque mon père et moi avons entrepris un voyage extraordinaire à travers la Méditerranée sur les traces d'Ulysse. Chaque fois qu'une guide promettait de nous montrer un site incroyablement spectaculaire, la grotte de Calypso ou la baignoire où le prince Télémaque s'était baigné en tant qu'invité du vieux roi Nestor, nous nous regardions et murmurions la tombe de Platon. Ce soir-là, en 2009, mon père esquissa un autre sourire en coin. « Oui, » dit-il d'un ton amer, « c'était Ré. » Ils ne s'étaient jamais entendus, lui et la dernière et la plus difficile épouse de mon grand-père, dont nous savions qu'il fallait pardonner les sautes d'humeur et les excentricités à cause du tatouage sur son avant-bras. Je n'oublierai jamais la manière dont elle mangeait, tante Ré, penchée sur sa nourriture, regardant d'un côté à l'autre comme si quelqu'un allait la lui voler. Alors, ce soir d'avril où je lui ai raconté l'histoire de Ré, cette vieille femme aigrie, mon père afficha son sourire morne et me dit « Eh bien, tu ne penses visiblement pas que tout cela soit vain. Tu écris un livre là-dessus. » Ce soir-là, pourtant, je vacillais. Bien sûr, je voulais que mon livre réfute le jugement amer de ma belle-grand-mère. Bien sûr, je voulais affirmer triomphalement la valeur, la pertinence et l'utilité des classiques grecs, un sujet qui, pour les gens de la génération et de l'origine de mon grand-père, et, comme nous le savons, pour beaucoup d'autres, semblait n'avoir aucune valeur, aucune pertinence. Bien sûr, je voulais célébrer ces valeurs pérennes, affirmer que, malgré son ancienneté, elle représente quelque chose qui, en réalité, n'a pas été perdu. Mais peut-être parce que je prenais soudain et plus que jamais conscience que mon père allait mourir, disparaître, comme vous les Français aimez à dire, non pas dans un avenir vague et inimaginable, mais bientôt, dans l'année ou les deux années à venir, parce que je comprenais donc désormais que mon père allait mourir un jour prochain, je ne pensais pas à ce qui avait survécu, mais à ce qui avait été perdu, ce qui avait disparu. Après tout, ce que nous considérons comme les grands classiques, ces textes dont, comme nous nous plaisons à penser, la grandeur les a sauvés de l'anéantissement du temps, ne sont en réalité que les rares survivants du tsunami de temps, les rares à avoir échappé aux milliers d'années, aux centaines de décennies et aux dizaines de siècles qui ont englouti presque tout le reste, toutes les autres épopées, tous les autres poèmes lyriques et toutes les autres pièces de théâtre, ouvrages qui auraient été qui auraient aussi pu être des chefs-d'œuvre. Mais peut-être, me suis-je dit ce soir-là, alors que je me sentais désespéré, vaut-il mieux la peine de penser à ce qui précisément a disparu, plutôt que de se concentrer, comme nous le faisons d'habitude, sur ce qui a survécu? D'abord, parce que comparer le peu qui reste à l'immensité de ce qui a été perdu devrait nous imposer le respect quant à ce que c'est le temps lui-même, un élément que nous avons tendance à prendre à la légère lorsque nous nous concentrons uniquement sur les survivants. Et par ailleurs, prendre conscience de l'immensité de tout ce qui a été perdu nous oblige à réfléchir à la question troublante de savoir pourquoi certaines choses survivent et d'autres disparaissent. Nous aimons croire que ce qui a survécu l'a fait grâce à ses qualités particulières, voire supérieures, celles qui ont fait un classique. Prenez l'Antigone de Sophocle, par exemple. Nous savons que ce chef-d'œuvre, devenu au fil des siècles un texte modèle universel sur la résistance courageuse à la tyrannie, est un texte qui a été délibérément préservé par les maîtres d'école de l'Antiquité. Mais qu'en est-il des autres pièces de Sophocle, celles qui n'ont pas été conservées? Étaient-elles pires ou simplement victimes de la malchance, de mauvaises décisions? Peut-être pensons-nous que les écrits qui ont survécu devaient avoir des qualités exceptionnelles simplement parce qu'il serait insupportable d'envisager l'alternative, qu'il n'y a aucune raison pour que certaines choses survivent et que d'autres disparaissent. La possibilité optimiste, du moins, était au cœur d'une seconde histoire, plus joyeuse que celle sur ma belle-grand-mère, que je raconterai à mon père à la fin de cette longue soirée de 2009, une histoire qu'une autre vieille dame juive m'avait jadis contée à propos des Grecs. Quelque part entre le pessimisme de la femme de mon grand-père et l'optimisme de cette seconde vieille dame se trouve peut-être la réponse à la question que je posais à mon père ce soir-là. Que signifie avoir survécu au millénaire ou ne pas avoir survécu? Que signifie véritablement être un classique? 1000 ans, s'était exclamée ma belle grand-mère, tentant de me faire comprendre l'éloignement insoutenable des Grecs auxquels je comptais consacrer mes études universitaires. En cette soirée de 2009, comme un simple exercice d'appréciation du temps, je voulais me pencher sur ces 1000 ans et en comprendre le sens. Je voulais sentir à quel point un millénaire est immense. J'ai donc décidé de remonter 1000 ans en arrière, depuis cette nuit de mai où je le discutais avec mon père, pour voir ce que 1000 ans pouvaient accomplir, pour voir combien de choses avaient survécu à un seul millénaire pour se retrouver dans les livres d'histoire, dans les annales, dans Google, dans l'IA, la mémoire que l'esprit d'aujourd'hui à conserver de ce passé. Et même si je relevais de temps à autre un nom, une date ou un événement de l'année 1009, une année assez récente, il faut le dire, lorsqu'on étudie les classiques, la naissance de l'empereur japonais Go-Suzaku cet hiver-là, par exemple, ou la mort du pape inefficace Jean XVIII pendant le chaud d'été romain de la même année, la destruction, le 18 octobre 1009, de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem par les armées du calife Al-Hakim Ba'amar Allah, une certaine entrée datée du 14 février 1009, dans la chronique germanique connue sous le nom de Annales de Quedlinburg, cette entrée constituant la première mention connue dans l'histoire mondiale de la Lituanie. Même en constatant ces faits bruts qui avaient bel et bien traversé les siècles, je ressentis surtout que leur survie ne faisait que me rappeler presque tout ce qui avait disparu entre 1009 et 2009. Qui connaît, après tout, les histoires qui se cachent derrière les faits qui nous sont parvenus, ces faits qui, pour beaucoup d'entre nous, représentent l'histoire? Qui se souvient des noms, et plus encore des vies, de la sage-femme de l'empereur japonais, du croque-mort du pape, du soldat de l'armée du calife qui porta le premier coup de pique contre les pierres de la basilique du Saint-Sépulcre, dont il ne resterait, nous dit-on, que la roche-mère, du scribe qui trempa son pinceau dans le pot et écrivait lentement le mot « Litua » pour la première fois dans l'histoire. Une grande partie de ce que nous appelons histoire n'est en réalité qu'une structure dépouillée, blanchie sur une dalle, dont on a ôté la substance, les détails, les subtilités, la texture, les arômes. Ces textures ont disparu non seulement de ce qu'on appelait autrefois l'histoire dure, les grands événements, les naissances, les morts, les batailles, les empereurs, les papes et les croisés. Elles ont également disparu de ce que l'on pourrait nommer les récits de ces récits, des processus même qui ont permis à ces récits de nous parvenir. Les textes originaux de presque tous les classiques grecs et romains ont été perdus dans l'Antiquité. Lorsque nous étudions les classiques, nous étudions des copies de copies de copies de copies des originaux. Généralement, la plus ancienne copie en notre possession date d'il y a environ 1000 ans, à l'apogée de l'Empire byzantin. Cette copie soigneusement réalisée par un des moines qui se consacrait à la copie de manuscrits encore plus anciens, aujourd'hui disparus, auxquels ils avaient seuls accès. C'est à partir de ces copies byzantines et médiévales que furent réalisées au XVIe siècle les premières versions imprimées des grands textes classiques, les ancêtres de tous nos textes d'aujourd'hui. Mais même affirmer ce que je viens de dire revient à effacer la richesse de la vie qui a présidé à la production des fragiles copies que nous possédons aujourd'hui, la richesse de cette existence que nous ne pourrons jamais saisir lorsque nous parlons de civilisation grecque, de littérature classique ou de transmission textuelle. Pensez un instant à ce moine byzantin qui, dans quelque scriptorium oublié, dont les pierres et le mortier font désormais probablement partie intégrante du mur d'une quelconque ferme en Turquie, a soigneusement recopié à la main l'unique exemplaire disponible en l'an 1009 de l'ancienne édition scolaire des Drames d'Eschyle, c'est-à-dire les 7 pièces déjà considérées dans l'Antiquité comme utiles aux jeunes gens, comme étant canoniques, comme l'Antigone de Sophocle. Par exemple, dans le cas d'Eschyle, l'Orestie, une œuvre sur la manière dont la justice s'établit, sur la manière dont une civilisation peut se construire. Pensez à ce moine, à la façon dont il a copié une édition qui avait déjà 1000 ans lorsqu'elle est parvenue à Byzance pour être recopiée par lui-même en cette année 1009. Un homme dont on ne connaîtra jamais le nom ni rien d'autre à son sujet. Tout ce que nous pouvons savoir, c'est que cette copie sera la seule à survivre à un nouveau assaut du temps et que 4 siècles plus tard, juste avant que Byzance ne rejoigne la longue liste des empires effondrés et disparus, des civilisations qui se désagrègent, cette copie sera apportée à Florence par le grand bibliophile et humaniste italien Giovanni Aurispa, où, 5 siècles plus tard, elle recevra le nom peu flatteur de Medicius Laurentianus 32.9 et deviendra finalement la base de tous les travaux menés par ceux qui s'intéressent au drame d'Eschyle, à ces 7 pièces qui nous sont parvenues, et parmi lesquels figure l'Orestie, une œuvre théâtrale majeure sur la naissance et la destruction des civilisations. 32.9, m'interrompit mon père cette nuit-là. Je voyais bien qu'il voulait en savoir plus sur le système bibliographique, les numéros, mais je poursuivis. Alors oui, dis-je, nous avons les textes, mais qu'en est-il du moine, de son nom, de sa vie? Qu'en est-il des armées d'autres moines et d'autres scribes anonymes et inconnus dont l'œuvre fut la transmission des textes et dont les gens comme moi tirons nos revenus? Sans parler des cuisiniers qui préparaient les repas des moines, des couturières qui confectionnaient leurs vêtements et des garçons d'écurie qui ferraient les chevaux pour ceux qui transportaient les courriers chargés de manuscrits achevés vers d'autres monastères et scriptoria afin d'être à leur tour copiés. Et qu'en est-il de ces autres établissements monastiques avec leurs propres moines, bien sûr, mais aussi leurs propres cuisiniers, couturières et garçons d'écurie? De non plus, on ne sait rien. De leur histoire à eux aussi, il ne reste aucune trace. Tout cela, vous vous en rendrez compte, vous qui lirez peut-être mon livre sur l'appréciation des grands classiques grecs, tout cela a été perdu. L'infinie richesse des vies qui ont contribué à la création des textes que nous lisons, nous qui nous plaisons à croire que nous nous intéressons à l'histoire, à des études humanistes. Et cela s'est passé il y a seulement 1000 ans. En parlant à mon père, je méditais sur l'année 1009 après Jésus-Christ. Qu'en est-il de 1500 avant Jésus-Christ, de Mycène et de l'âge du bronze, des Minoens et de leur palais disparu, de leur parfum, de leur décor sinueux, de leurs cheveux huilés, de leur danse de taureau et de leur musique? Tout cela fut réduit à néant, en ruines, en poussière et en ossements, 1000 ans et demi avant les 1000 ans qui durent s'écouler jusqu'à ce que la sage-femme anonyme et inconnaissable présente le futur Go Suzaku aux courtisans ravis, dont les noms resteront à jamais inconnus, à Kyoto en décembre 1009. Avant qu'une moine disparue n'écrive le mot Nlitua sur un morceau de parchemin confectionné à partir de la peau d'un agneau qu'un jeune berger a jamais oublié de l'histoire, mais une vie humaine, une vie tout de même, avait gardé jadis sur un flanc de colline des Monts Harz en Allemagne, près de Quedlinburg. Combien est insignifiante la durée d'une seule vie humaine comparée à tout ce temps qui a effacé une si grande partie de ce que la culture construit. Cette vie, c'est le petit caillou sous votre pied lorsque vous vous approchez du Parthénon ou du Panthéon pour la première fois, et le Parthénon et le Panthéon, monument imposant, construit pour traverser les siècles, représente 1000 ans, et la petite pierre sur laquelle vous marchez sans même vous en apercevoir, ce sont les 22, 40 ou 66 années que vous, qui m'écoutez ce soir parce que vous portez un intérêt quelconque à une culture vieille de 3 millénaires, venez de vivre. Ou bien cette pierre représente les 80 ans qu'avait vécu mon père en ce soir de 2009, l'année où, déjà malade, il décida, lui, scientifique, de comprendre ce à quoi moi, helléniste, avais consacré ma vie à étudier, à lire et à écrire. Il entreprit donc de lire des classiques et, plus tard, de venir assister à mon cours sur l'Odyssée et puis de visiter les lieux de création des classiques, aller en Grèce, en Turquie et en Italie, naviguant avec appréhension sur les allées et les escaliers de marbre dangereusement lisses dans ses baskets à semelles de caoutchouc semblables à des guimauves, me demandant de temps à autre de le prendre par la main et de le guider sur cette voie glissante menant à une acropole ou à travers une péristyle creusée, comme il m'avait autrefois guidé par la main de nombreuses années auparavant, lorsque j'étais enfant, en tant de fois et en tant d'occasions que, parce que ce n'était pas des moments importants, personne n'avait pris la peine de s'en souvenir et donc il se sent perdu à la mémoire. 1000 ans. Et si l'on remontait encore d'un millénaire à partir de l'an 1009 après Jésus-Christ, si l'on franchissait ce millier d'années supplémentaires qui nous mène enfin en plein cœur de l'Antiquité classique, combien infiniment plus de choses ont été perdues entre l'an 9 après Jésus-Christ et aujourd'hui, qu'entre 1009 et aujourd'hui. L'an 9 après Jésus-Christ, année, comme nous le savons, qui fut riche en tant d'événements que nous le reconnaissons comme historiques, notamment pour l'établissement du Rhin comme frontière entre les mondes latins et germaniques, où entre pour un temps la civilisation et la barbarie. Et pourtant, elle fut aussi riche de tant de choses qui continuent de nous échapper. C'est par exemple l'année où le grand poète romain Ovid, exilé de Rome sur ordre de l'empereur Auguste, entreprit son terrible voyage vers Tomis, ce coin reculé de la mer Noire où il avait été relégué. Mais pourtant, malgré tout ce que nous savons d'Ovid, et c'est considérable, nous ne pouvons pas savoir avec certitude les raisons de son exil. Tout comme, et c'est plus important encore, nous ne connaissons pas l'identité de ceux qui l'ont accompagné loin du cœur de la civilisation romaine jusqu'à ses confins barbares. Nous ignorons l'itinéraire qu'il a suivi, les propriétaires des auberges où il a séjourné, les visages et les voix qui ont dû marquer sa grande conscience artistique et dont il ne reste pourtant aucune trace. Les aubergistes et les forgerons, les courtisanes et les charretiers, les étranges indigènes qu'il a rencontrés en atteignant l'avant-poste où il allait passer le reste de sa vie, le cœur lourd du mal du pays, pour Rome. L'an 9 après Jésus-Christ, cette année-là, 1000 ans plus tôt que notre moine byzantin, Ovide fut exilé, peut-être à cause de ce qu'il appelait un poème et une erreur. Et bien que nous ne sachions pas avec certitude quel était le poème et quelle était l'erreur, nous savons que, contrairement au cas d'Ovid, l'œuvre d'un autre grand poète, récemment décédé, bénéficiait cette même année de l'an 9 après Jésus-Christ d'une importante préférence officielle, l'Énéide de Virgile, un poème dont l'intérêt pour la question de ce que signifie être parmi les rares survivants d'une civilisation entièrement détruite, en fait une lecture très moderne. Et si l'on faisait un bond en arrière de 1000 ans de plus, nous atterririons à une époque si reculée que, malgré nos connaissances actuelles, nous ne pourrions nous empêcher de la qualifier de siècle obscur de la Grèce. Et si l'on utilise le terme obscur pour décrire ce que nous savons effectivement, il est presque insoutenable de contempler tout ce qui a disparu entre-temps, les ténèbres véritables, les pertes irrémédiables. Or, 2000 ans avant la destruction de la basilique de Saint-Sépulcre, nous nous trouvons à l'ère des origines obscures de toutes choses. Parmi ces origines, on compte notamment les débuts de toute notre littérature. Car, quelque part dans cette obscurité historique, un bouillonnement informe semblable à la boue primordiale que le poète exilé Ovide, décrivait au début de sa grande épopée, les Métamorphoses, les vagues souvenirs de cataclysmes, de triomphes et d'extermination, déjà vieux d'un demi-siècle en 991 avant Jésus-Christ, un souvenir flou d'une grande guerre entre l'Orient et l'Occident, l'Europe et l'Asie, les Grecs et les Troyens, commence à inspirer les conteurs et les chanteurs dont les chants fourniront de la matière pour toute la littérature européenne qui s'ensuivra pendant les trois prochains millénaires. Cette guerre, déjà un vague souvenir en 991 avant Jésus-Christ, nous donnera la légende dans laquelle on trouve un personnage nommé Énée, le prince troyen qui, 1000 ans après ce jour de mai de 991 avant Jésus-Christ, deviendra le héros de l'Énéide de Virgile, le poème qui commençait tout juste à circuler en l'an 9 après Jésus-Christ. Le même ensemble de mythes et de légendes sur toi fournira à Eschyle, qui ne naîtra que 500 ans plus tard, la matière pour les personnages d'un chef-d'œuvre d'un chef de guerre tourmenté et d'une reine amère, Agamemnon et Clytemnestre, que ce poète encore à naître imaginera un jour dans une pièce intitulée Agamemnon, et dont les derniers exemplaires qui survécurent seront mis en lieu sûr par un certain signor Arispa, 25 siècles après ce jour de 991 ans avant Jésus-Christ. Texte qui, un demi-millénaire plus tard encore, parviendra jusqu'à nous. Toutes ces vies, elles aussi, ont disparu. Les chanteurs et le public, les seigneurs de guerre couverts de suie et les vachers visqueux, avides d'entendre un chanteur interpréter sa chanson sur Énée, Agamemnon et Clytemnestre. L'esclave qui apporta au seigneur de guerre son gigot de mouton, le cuisinier qui préparait l'agneau, l'intendant qui battait l'esclave, l'artisan inconnu qui fabriqua l'instrument dont le barde s'accompagnait, tous réunis autour d'un feu pour écouter un poème sur une guerre menée pour une belle jeune fille. Mais même penser au grand poème et à tout ce qu'il a engendré au fil du temps, c'est se souvenir inévitablement de toutes ces chansons, de ces histoires et de ces poèmes qui n'ont pas atteint le rivage sûr des classiques. Toutes ces œuvres qui, en fin de compte, n'ont pas survécu au déluge du temps. La littérature grecque dont les qualités ne seront jamais connues, ni analysées, ni résumées dans des livres comme celui que je m'efforçais d'écrire en ce soir de printemps 2009, où je parlais à mon père de ce qui rend classique un classique. Nous ne saurons jamais vraiment à quoi ils ressemblaient, les 9 livres entiers des poèmes lyriques de Sappho, dont, jusqu'à récemment, il ne restait qu'un seul poème complet. Les 75 pièces perdues d'Eschyle, les 116 œuvres disparues de Sophocle, les 70 de Rupide, les premiers dialogues d'Aristote, le drame en vers perdu d'Ovide, intitulé Médée, que certains parmi les anciens considéraient son meilleur ouvrage, les élégies amoureuses de Cornelius Gallus, un ami proche de Virgile, dont la production poétique comprenait autrefois 4 livres entiers, dont 10 vers subsistent aujourd'hui, tant d'autres choses. Et ainsi, assise auprès de mon père, mathématicien en fin de vie, j'ai exploré ce que voulait dire 1000 ans. Maintenant, je veux réfléchir un instant avec vous à une autre période de 1000 ans, mais cette fois, non pas en remontant le temps, mais en nous propulsant loin dans le futur, vers le printemps inimaginablement lointain de l'an 3026. Car il devrait être clair désormais que presque tout ce qui appartient à notre aujourd'hui sera, lui aussi, complètement oublié avec le temps, perdu comme s'il n'avait même jamais existé, à moins que certains écrivains contemporains n'aient la chance d'être un Virgile, un Eschyle, un Homère, un classique, à condition, bien sûr, que l'œuvre de cet écrivain survive à 10 siècles d'accidents, d'incendies, de rats, d'humidité, de virus informatiques, de virus et de corruption que nous ne pouvons même pas imaginer, car les technologies qu'ils détruiront nous sont aussi inimaginables aujourd'hui que le iPhone l'était pour le moine qui a passé des mois à réaliser l'unique exemplaire de l'Oloristie d'Eschyle que nous possédons. 10 siècles de négligence, de malice et de malchance. Et nous autres, il ne restera presque rien, comme nous l'avons si clairement constaté. Certainement pas nous les gens nous-mêmes, moi debout devant vous ce soir, et vous assis là à m'écouter, tous ceux que vous connaissez et avez connus, tous auront disparu d'ici 1000 ans, tout comme 20 générations de vos descendants, eux aussi oubliés, effacés de la mémoire du monde, du temps, avec leurs professeurs, leurs proches et leurs amis, des personnes dont l'ancêtre le plus lointain ne naîtra pas avant 100 ans, à partir de 2009, l'année où j'ai parlé de tout ça avec mon père et commencé à écrire mon livre. Et les technologies de conservation auxquelles nous nous accrochons et que nous utilisons pour, du moins le croyons-nous, sauver ces personnes et les souvenirs qu'elles nous ont légués, les appareils photonumériques et les ordinateurs portables, les courriels et les pages Facebook, YouTube, Insta, les vidéos et les téléviseurs à écran plat, seront aussi obsolètes et inutiles d'ici 1000 ans que le rouleau de papyrus l'est pour nous. Ces mêmes pierres sur lesquelles, espérant l'éternité, nous confions les brèves informations de nos dates de naissance et du décès, ne connaîtront pas un meilleur sort, ni un pire, assurément, que les pierres illisibles dont une touriste curieuse fera un estampage avant de retourner à son hôtel, sans jamais songer, en réalité, à la vie de la personne dont les dates de naissance et de décès viennent d'être réenregistrées, jusqu'à ce que l'estampage soit encadré ou, éventuellement, jeté à la poubelle. être oublié, voir tous ceux qui se sont souvenus de vous tomber dans l'oubli eux aussi. Voilà ce que font 1000 ans. Alors, peut-être que ma belle-grand-mère acariâtre, cette femme à qui, un jour de l'été 1941, on avait ordonné d'aller à droite, tandis que son mari et sa fille de 14 ans allaient à gauche, ce qui explique pourquoi elle a survécu, elle, et me réprimande 35 ans plus tard. Cette femme qui, de ce fait, a certainement mérité son amertume envers des mots comme « culture », comme « civilisation ». Peut-être donc que cette pauvre Lituanienne traumatisée avait raison. La pensée de ce que nous avons perdu peut être accablante. Peut-être que trop de choses se perdent. Peut-être que tout cela n'est que du vent. Nos études, nos comédies, nos histoires, nos tragédies, notre Platon. « Tu n'y crois pas vraiment ?» m'a demandé mon père après que je lui ai récité cette litanie de perte. « Eh bien, j'ai répondu, oui et non. » Il a ri de son rire amer. Il me connaissait. Il savait, entre autres, à quel point j'étais devenu découragé depuis la rédaction de mon livre sur l'Holocauste, sur ce que j'avais commencé à appeler la fragilité de la civilisation, sur la facilité avec laquelle les valeurs civilisées peuvent se dissoudre. D'un autre côté, il savait que je suis, comme le disait en plaisantant l'autre vieille dame juive dont je parlerai ce soir, une personne sentimentale. Et en effet, j'ai dit à mon père que s'il est vrai que beaucoup de choses qui ont survécu du passé lointain l'ont fait plus ou moins par hasard, je dois croire, peut-être parce que je suis un homme sentimental, que certains aspects de la civilisation ont perduré parce que, en fait, ils ont une valeur réelle, non pas une valeur abstraite, théorique, n'ont pas une valeur pour les publications, les promotions, les postes à pourvoir, mais une valeur solide et significative pour de vrais êtres humains, les gens ordinaires dont les vies oubliées constituent 99% du passé que nous étudions lorsque, souvent naïvement, nous étudions le passé, sans nous rendre compte parfois que nous n'étudions que la minuscule fraction d'expérience qui n'a pas été perdue. Pour illustrer mon propos, j'ai fini cette nuit de printemps en 2009 par raconter à mon père cette seconde histoire, une histoire que j'avais glanée en écrivant cet autre livre, celui sur les Juifs, l'histoire que m'avait contée la seconde vieille dame juive, celle qui me charriait en me qualifiant de sentimentale. Elle aussi était une survivante. Au moment de la brève conversation que je vais vous raconter, je connaissais déjà certaines des souffrances qu'elle avait endurées, et je peux vous dire que ce sont des choses qui ne vous laissent aucune illusion sentimentale sur la valeur de la culture occidentale, de la civilisation et de ses traditions. Nous avions passé une longue journée ensemble, cette vieille dame et moi, à parler de choses tristes, à parler en fait de l'effacement d'une culture, de l'anéantissement d'une civilisation, d'un démantèlement aussi total et définitif que celui décrit par Virgile dans le deuxième chant de l'Énéide. Après tout, il reste aujourd'hui autant de Juifs dans la petite ville polonaise où cette dame avait vécu qu'il y a de Troyens à Troie. Nous étions fatigués. la nuit tombée. Nous ne voulons pas la laisser sur note triste ce soir-là. J'ai tenté d'orienter la conversation vers des souvenirs plus heureux. Alors, que s'est-il passé après la guerre ? Demandai-je doucement. Quelle a été la première chose qui s'est produite une fois que la vie a commencé à redevenir normale ? La vieille dame, dont le vrai nom avait disparu pendant la guerre avec ses parents, sa maison et presque tout ce qu'elle avait connu, me regarda. Son expression lasse s'était légèrement illuminée. « Vous savez, c'est étrange, » me dit-elle. « Quand les Allemands sont arrivés en 1941, la première chose qu'ils ont faite a été de fermer les théâtres. » Les théâtres, et je répétais, un peu déconcerté, sans me douter où cela allait me mener. Je ne savais pas de quel théâtre elle parlait. J'ai brièvement pensé au grand Panthéon Beaux-Arts qu'était l'Opéra de Lviv, avec ses chars tirés par les muses et ses victoires dorées, un mirage de civilisation, la rêve que le XIXe siècle se faisait de lui-même. Elle m'avait dit qu'un jour, elle y avait vu Carmen, alors qu'elle était jeune mariée. Mais elle ne parlait pas à présent des opéras à Lviv, ni des années 1930. Elle parlait des théâtres de Cracovie, où elle, son mari et son enfant s'étaient installés après la guerre. « Oui, dit-elle sèchement, comme s'il aurait dû être évident pour moi que la première chose à faire lorsqu'on s'apprête à anéantir une civilisation est de mettre fin au spectacle. « Oui, répéta-t-elle, les théâtres. La première chose qu'ils ont faite, c'est de fermer les théâtres. » Elle marqua une pause, se souvenant de quelque chose. « Et je vais vous dire quelque chose, » poursuivit-elle, « car je m'en souviens très bien. La première chose qui s'est produite après la guerre, quand les choses sont redevenues un peu normales, c'est que les acteurs et les gens de théâtre encore en vie se sont réunis et ont monté en polonais une production d'Antigone de Sophocle. J'ai raconté cette histoire, cette nuit de printemps 2009, à mon père. Il est resté silencieux un moment après que j'ai fini. Je me suis rendu compte que nous avions parlé toute la nuit. Le ciel s'assombrissait, et les dernières braises dans le cheminée clignotaient faiblement comme l'œil fatigué d'un insomniaque. Puis, sans me regarder, il a dit « You did good. Tu t'es bien débrouillé. » J'essayais de comprendre s'il faisait référence au livre que j'avais écrit sur l'Holocauste, sur les Juifs, sur Jérusalem, ou à celui que j'écrivais sur les classiques, les Grecs, sur Athènes. Quand il reprit soudain la parole, j'ai compris que cela n'avait pas vraiment d'importance. Le regard droit devant lui, il a dit, « Beaucoup de choses disparaissent et on perd beaucoup dans la vie. Je peux te le dire. » Il a pris une expression sombre, une expression dans laquelle se cachaient combien d'histoires de tuberculose, de décès en couche, de grippe espagnole, des journées de travail de 16 heures, des enfants placés en orphelinat, des compromis, du chagrin et de défaite. Je ne le saurais jamais. Alors, il reprit, c'est bien si quelqu'un se souvient, ne serait-ce qu'un peu. Il fermait ses yeux, grimaçant comme il le faisait lorsque le passé le mêlait trop au présent, la caresse d'un fantôme. Puis, il me regarda droit dans les yeux. « You did good, Dan. » Je cachai mon visage entre mes mains. Le fauteuil roulant demeura rangé dans un coin. Le déambulateur resta à portée de main. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.